encore jamais vu crever autant de monde.
Libre Radio, la radio des survivants.
Certes, les survivants, c'est nous. Les survivants, il y en a parmi nous ici pour notre prochaine volée d'invités, dont on va faire un tour de table puisque Paul est parmi nous également. Donc, nous sommes en compagnie de Marie-Lou. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu es entre autres, mais après je vous laisserai vous présenter vous-même bien entendu. Tu es notamment l'auteur, tu préfères qu'on dise comment, auteur, autrice ? Des balades, voilà, des autrices. Alors je dis autrice parce que Paul préfère qu'on dise auteur.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Je crois que c'est auteur, oui.
Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une vraie...
Non, c'est autrice, normal.
Normalement, c'est ça. Hein, ouais. Intuitivement, je pensais plus à autrice, mais voilà. Autrice des balades de squat en squat qui ont cours à Genève en ce moment, enfin depuis maintenant un moment. Voilà. Ivar, tu as également un certain nombre de casquettes, hein, et notamment concernant la marche pour la paix, pour la marche Srebrenica, dont tu reviens, je crois, récemment.
Non, enfin,
tu
étais pas. Je vais partir.
Ah, tu vas partir.
Le 6.
Voilà, et à la Chaux-de-Fonds, le week-end passé, vous étiez à la Chaux-de-Fonds pour une marche de sensibilisation plutôt.
Dans le Val-de-Ruz.
Dans le Val-de-Ruz.
Dimanche 1er juillet.
Ouais. Et le 6, donc, tu pars à Srebrenica. On le rappelle, Srebrenica, c'est cette ville où s'est passé ce terrible massacre durant la guerre des Balkans, de la guerre d'Yougoslavie.
De Bosnie-Herzégovine, plus précisément.
Exactement, tu fais bien de le préciser. Et aujourd'hui, tu es là plus en qualité d'occupant, de squatteur, d'ancien squatteur du prieuré, qui est, qu'on l'a dit, le premier squat politique ici à Genève, qui nous est face, hein, ici sur la place de Châteaubriand. On est juste en face de ce squat-là, c'était en 1972. Et c'est cette partie, hein, de, on l'a dit au sommaire, l'émission Les squats à Genève, entre souvenirs et nouvelles conquêtes. Voilà. Et Paul Mangea, bienvenue. On est ravis de te recevoir. Tu es auteur.
Oui.
Alors moi j'ai mis auteur prolixe, hein, parce que j'ai vu tous les livres. Alors tu travailles beaucoup avec les éditions Cabedita et Cousumouche.
Cousumouche, oui.
Ah, plutôt Cousumouche. Cabedita, je me trompe complètement.
Oui, je crois.
Ah, pardon. Non, mais c'est parce que l'un et les autres, on les a eus à la radio. Et des fois, je fais des salades.
Cousumouche.
Ah, c'est ouais. Cousumouche, d'accord. Ça se passe bien avec eux, je pense.
Oui, ils sont adorables.
Ouais, oui.
Et ils font du très très bon travail.
Et eux-mêmes sont d'ailleurs auteurs.
Aussi, oui. Enfin, certains.
Mick en tout cas. Michael Perruchot, pour le citer, c'est un camarade.
Et c'est un de mes auteurs préférés en plus.
En plus, ah bah voilà.
Talent fou.
Effectivement. Alors voilà, on va commencer dans l'ordre par parler justement de ces squats ici au Paquis. Alors on était en 1972, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'une bande d'écervelés qui s'est dit on va occuper un bâtiment. Comment s'est née cette idée d'occuper un lieu? En 1972, vous êtes inspiré d'occupations qui ont eu ailleurs ou comment c'est venu?
Alors, il y avait plusieurs groupes au départ, dont l'association des habitants des Paquis. Il y avait un groupe crèche avec d'ailleurs Olivier de Marcellus et Nicolas Wirtz qui sont bien connus, et un groupe enfants. Donc, et puis nous, cuisine, enfin repas populaires, donc on animait des repas populaires entre 1970 et 1977 au centre de loisirs de Carouge. Et là, on avait en général une quarantaine de participants, participantes, donc qui sont venus en partie ensuite au repas qu'on a organisé dans le cadre de l'occupation du prieuré qui a débuté en mars 1972.
D'accord. Mars 1972, tu as dit. Combien de temps ça a duré, cette aventure?
Alors, malheureusement, ça n'a pas duré même une année, parce que le 20 décembre 1972, sur ordre du conseil d'État radical, d'ailleurs, Ramseyer, il a envoyé 150 policiers avec derrière des engins de démolition. Et le jour même du 20 décembre, le prieuré a été rasé.
Donc ça veut dire que la répression, déjà à l'époque, on rigolait pas avec ça.
Hein. Oui, tout à fait.
Ouais. Juste, peut-être devrions-nous préciser, puisque les squats ont quand même beaucoup, beaucoup disparu ici à Genève, qu'est-ce que ça contenait que la notion d'un squat politique, un squat autogéré?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la première année, donc une année auparavant, il y a eu un squat sauvage par des jeunes des Paquis. Et puis là, en fait, on a réfléchi au concept, aussi d'ailleurs avec le centre Lyotard, avec Alain Rizen notamment. pour organiser un dortoir dans le cadre de, du squat, et une règle de 3 nuits, donc maximum, pour ceux qui voulaient rester. Ils devaient faire partie d'un groupe de travail parce qu'on était pour une répartition des tâches et que chacun son tour participe au fonctionnement de la maison, quoi. Et donc, avec Jane, qui était ma compagne de l'époque, nous, on s'est occupé de la cuisine populaire. On servait 100 de repas par jour. Et à la fête de l'inauguration du prieuré, il y avait des jeunes Marocains qui passaient par là et qui sont venus. On leur a expliqué. Ils ont dit « Ah, ben, ça nous plaît ». Et pendant plus de 3 mois ou 5 mois, je ne me souviens plus exactement, ils nous faisaient 5 ou 6 couscous par jour, quoi. Donc, ils s'étaient répartis en équipes. Il y avait l'équipe midi et l'équipe soir. On servait donc 100 de repas par jour. Et donc, il y avait différentes équipes pour réparer la maison, les fenêtres, etc. On a eu un coup de main d'ailleurs de André Beziguer, anarcho-syndicaliste bien connu de l'époque, qui était entrepreneur et qui nous a amené pas mal de matériel, ciment, briques, etc., pour des différents aménagements, et aussi d'ailleurs des gros marteaux pour démolir des fois des murs qu'on voulait aménager différemment. Et dans le cadre de la création de ces groupes de travail, on a prolongé avec ce qui était absolument d'avant-garde, on peut dire, un système de troc avec les agrobio. Comme vous savez, les agrobio, vu qu'ils ne foutent pas du Roundup et compagnie, ils ont besoin de main-d'œuvre pour sarcler les mauvaises herbes. Et aussi donc pour récolter les fruits, et les salades, etc. Et ce qui était extraordinaire, donc on envoyait des équipes 4 fois par semaine. Il y avait des jeunes, parce qu'il y avait des jeunes du monde entier qui débarquaient ici, quoi. Il y avait des jeunes de New York. Alors vous imaginez, ils n'ont jamais vu une salade ou une pomme sur un arbre. Et pour eux, c'était tout sur les rayons des supermarchés. Mmh. Et tout à coup, ils se trouvaient dans ce monde végétal. Et il y a même un couple qui s'est installé par la suite comme agrobio. Et ça, c'était aussi une dimension qui était intéressante du prieuré. Donc, le soir, après les repas, on invitait des fois des personnes qu'on trouvait intéressantes pour des exposés ou des démonstrations. Et notamment une femme qui faisait de la réflexologie. Et maintenant, on en trouve quasiment une page sur l'annuaire téléphonique, mais à l'époque, c'était la seule, quoi. Okay. Et une des filles qui a eu un passé, d'ailleurs, difficile au départ, ça lui a fait tilt. Et par la suite, elle s'est installée comme professionnelle. Elle travaillait pendant plus de 50 ans comme réflexologue. Donc, on peut dire qu'on a ouvert beaucoup d'horizons par le travail, par les initiatives qu'on avait menées dans le cadre du prieuré.
Alors, on va y revenir, hein, de toute façon, mais maintenant, j'aimerais avoir le regard de toi, Marie-Lou, qui a enquêté d'une certaine manière. Alors, toi-même, tu es aussi passé par le mouvement squat. Tu as aussi été une squatteuse.
Oui, alors je ne faisais pas, j'étais encore petite. Ouais. Quand,
oui, bien sûr, d'autres temps, d'autres mœurs, mais...
Quand il y a eu le prieuré, et c'est effectivement, pour l'instant, je ne me suis pas encore lancée à faire l'histoire des squats des paquis, parce qu'effectivement, c'est pas très facile de suivre la piste de certains lieux, comme par exemple... le prieuré qui dans les jeux, je me base quand même beaucoup sur les journaux, mais effectivement quand j'ai la chance d'avoir près de moi quelqu'un comme Ivar qui a vécu
nous on pensait que c'était intéressant de vous mettre côte à côte, parce que sachant que tu n'avais pas encore envisagé cette piste là, enfin pas étudié, mais c'est quelque chose qui pourrait donc surgir.
Oui,
ouais. Alors 1972-2018, c'est un grand écart. Selon toi, Ivar, quelles analogies et quelles différences ? entre 72, les conditions où... Parce que tu as parlé de répression, la répression, on la retrouve aujourd'hui de manière... La démesure, la disproportion de la répression, ça, c'est une analogie. Alors, y en a-t-il d'autres, selon toi, entre 1972 et 74, cette époque-là, et maintenant? Et y a-t-il, selon toi, des différences qui font que, qui expliqueraient le fait que lorsque l'on dit squat politique, squat autogéré maintenant à Genève, eh ben, Marie-Lou, tu confirmeras, mais a priori, je crois que ça a quasi disparu.
Alors, bon, si on voit ce qui se passe en ce moment à Malagnou, ils sont très politisés. Hein, et ils n'en seraient pas là si, s'ils ne l'étaient pas. Oui. Donc, je pense... Ce qu'il y a, c'est que autre époque, autre mœurs, et la les gens sont obligés de s'adapter à la politique ambiante et de trouver des autres chemins de lutte. Parce que effectivement, ben, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, ben, on a vu quand il y a eu l'occupation à la Coulouvrenière, même dans la tête des gens, c'était très clair que c'était simplement une démonstration symbolique.
Alors, voilà. C'est des conditions sociales qui ont permis que vous teniez quand même cette courte période à l'époque
Alors, je pense que la condition essentielle, et ça, ce n'est pas seulement valable pour Genève, mais partout, c'est qu'il y ait des mouvements d'habitants, des mouvements de quartier qui soient derrière et assez massivement. Je rappelle que dans les années 80, par exemple, où il y a eu toute l'éclosion des squats, il y avait 10 associations de quartier qui pouvaient mobiliser 1 millier de personnes au minimum. Et il y avait une fédération des associations de quartier qui coiffait le tout. Et il y avait donc une organisation, y compris de la façon de lancer les squats et tout, qui n'existe malheureusement plus dans le contexte actuel. Quoi.
D'accord.
Bien que justement pendant les manifestations, la rue est à vous, j'avais l'impression qu'il y a une renaissance des mouvements de quartier qui très certainement se développent encore une fois autrement qu'à l'époque, puisque voilà, on est dans une époque différente, les gens ne fonctionnent pas la même chose, mais en tout cas, les gens, puis les votations qu'il y a eu, on voit bien que les gens ils sont attachés à un quartier populaire. Ils en ont ras-le-bol de comment évolue Genève et la population genevoise a vraiment envie de se réapproprier sa ville. Donc, je pense que c'est une volonté vraiment de la base et elle gagne du terrain, hein, on le sent.
On a vu le mouvement Prenons la ville qui a manifesté, a fait 3 grosses manifestations avec plusieurs milliers de personnes ces dernières années et demie. On voit donc qu'elle a effectivement remporté un succès. Et d'ailleurs, on observe même une évolution au sein de ces manifs, puisqu'effectivement, on a eu l'émergence de banderoles qui annonçaient des mouvements de quartier. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu ce type de banderoles-là dans la rue. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a également un problème d'isolement? Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, Prenons la ville, pourrait-on dire, est né à Malagnou, plus ou moins, dans des lieux qui sont encore des lieux collectifs, où on vit ensemble. J'ai l'impression qu'avec des phénomènes de gentrification, des phénomènes de gens qui partent du centre-ville, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus d'isolement et des facultés à l'autodéfense et à la résistance qui s'amoindrissent. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'ai l'impression que le problème, il est également d'arriver à rencontrer des personnes avec lesquelles on pourrait par la suite s'organiser. Ou je me trompe?
Alors, en tout... Moi, je ne saurais pas répondre de manière totalement frontale à ta question, mais ça me fait penser à une réflexion d'une des personnes qui est venue suivre ma balade. Elle disait, le moment où la tour et Rino a été évacué, j'ai eu l'impression de perdre ma famille. Et déjà, c'est vrai que c'était des lieux où... On était en contact direct avec les gens, on discutait assez spontanément, alors que voilà, j'ai l'impression que c'est difficile de trouver ces lieux où, ici, voilà, on est en famille. Et où la parole, elle sort de manière spontanée et où on sent qu'on peut construire des choses ensemble. Alors que, voilà, dans les rencontres quotidiennes...
C'est plus délicat. C'est plus
oui, difficile. Puis ouais. on sent quand même que les gens, ils sont un peu sur leurs pattes arrière parce qu'ils ont... Ils ont peur. Disons qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où les gens ont peur de perdre leur boulot. Enfin, il y a une pression qui est très forte. Et
Il y a des rapports voilà. humains, tu veux dire, qui sont plus sclérosés,
ouais.
pourrait-on dire.
Je pense.
D'accord. Lors de tes balades, est-ce que tu as quel type de retour as-tu justement les personnes qui viennent participer? Aux balades. Est-ce que ce sont des anciens ?
Il y a de tout.
Il y a de tout.
Il y a vraiment de ouais. tout. Ça va des anciens un peu nostalgiques qui me disent oh, c'est super, ça me rappelle des bons souvenirs. Il y a des gens, par exemple, qui viennent pour faire connaître ça à leurs enfants qui peuvent être plus ou moins déjà grands. Et puis, il y a des petits jeunes qui viennent. Et madame, comment on fait pour squatter quoi.
Excellent. Marie, le mode d'emploi.
Et c'est pas le but, mais disons, il faut qu'ils se débrouillent tout seuls. Surtout que moi, je fais partie de la génération où on nous ouvrait les squats et on s'installait après.
C'est vrai qu'avec Bernard Bertossa comme procureur à l'époque, c'était différent. Ouais. C'est pas la même chose que maintenant. Paul, tu voulais intervenir?
Oui, alors moi je suis un peu trop jeune pour avoir connu cette période-là. Je suis née en 78, donc le prieuré avait déjà disparu. Ouais. Par contre, je militais contre la destruction à 6 ans, la destruction du Robinson Crusoe, le petit ouais. parc qui était à côté. Mmh. C'est une de mes premières manifs. Marie-Lou, comme je la crois souvent en manif, on sait qu'il y a plein de raisons de manifester encore. Et puis les squats, pendant mon adolescence, je les ai assez peu fréquentés en fait. J'ai découvert ça vraiment à la fin, simplement parce que je fumais pas de joint et que pour moi c'était hyper compliqué.
C'était rédhibitoire.
Ouais, c'était un peu compliqué pour moi. Mais j'adorais la culture des squats, j'adorais tout ce que je voyais comme concert, etc. Mais vraiment rester. Après un concert, m'était pénible. Rester après une pièce de théâtre, m'était pénible. C'était ouais, voilà.
Ok. Bon, ben voilà. Yva, pour en revenir justement au squat du prieuré, quelles en étaient les principales revendications et quelles en étaient les aspirations individuelles et collectives?
Alors, en fait, il faut distinguer entre le groupe de base, on était à peu près une trentaine, et tous ceux qui venaient, qui étaient de passage, et ceux qui, comme les groupes, ceux qui participaient au groupe de travail, ils trouvaient leur compte. Et donc, là, il y avait ces... par rapport à ceux qui étaient de passage, des fois, ils ne comprenaient pas très bien, disons, le fonctionnement autogestionnaire. Ben, c'est pas,
oui.
Évidemment, ce n'est pas un fonctionnement qui est expliqué dans nos sociétés et tout. Donc là, il y avait tout un travail d'explication. Et à un certain moment, qui reposait sur très peu de monde, parce que sur les 30 de départ, ben, vers fin juillet, août, la plupart, ben, ils sont partis en vacances. Et c'est là où ça avait tourné un peu à la catastrophe, parce que ceux qui voulaient simplement squatter, être là, en gros, sans contrepartie, sont devenus nettement majoritaires et prédominants. Et disons, il y a presque eu une prise de pouvoir de leur part. Et nous, on est obligés de faire un ultimatum, vers début août, en disant soit ça fonctionne selon les règles qu'on a fixées de répartition des tâches et puis finalement d'avancer ensemble, ou soit ça devient un truc individuel où chacun se débrouille et tout, quoi. Et malheureusement, on n'a pas obtenu gain de cause. On a dû arrêter tout le fonctionnement des groupes de travail, cuisine populaire et tout, parce que nous, on ne voulait pas en fait faire le jeu des parasites. Et puis là, donc la question avant aussi sur la question du H, nous, on avait une règle aussi d'interdire le H à l'intérieur du squat du prieuré, parce que tout près, bon, il y a les parcs et tout. Donc ceux qui voulaient fumer des joints, on leur disait, mais il n'y a qu'à aller à... 300 ou 400 mètres plus loin, quoi. Mmh. Parce qu'on ne voulait pas attirer aussi les dealers, quoi. Mmh. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que les dealers qui voulaient effectivement pénétrer au prieuré et essayaient de nous discréditer en disant qu'on était une dictature autogestionnaire, etc. Mmh. Quoi. Et donc il y a eu d'énormes... par la suite, quand il y a eu un peu cette déstructuration, donc on peut dire tant que nous, on tenait disons, la structure de base, il n'y avait pas disons, de grandes tensions. Mais dès qu'on a quitté, toutes les tensions ont explosé. Il y avait par exemple un groupe rocker qui occupait une des ailes du prieuré. Ils avaient un petit garage de moto dessous. Et puis d'autre part, il y avait justement ces beats qui eux voulaient profiter, qui faisaient la foire toute la nuit et qui faisaient forcément du bruit, qui dérangeaient les rockers qui la plupart bossaient, quoi. Et là, il y a eu des monstrueuses bagarres, il y a eu une chance inouïe qu'il n'y ait pas eu de blessés graves, même de morts, comme ça s'était passé avec des bagarres où ils démontaient les barres des escaliers, par exemple, des barres en fer qui auraient pu faire des dégâts vraiment.
Ça devenait des barres à mine, des armes, quoi, carrément.
Carrément, oui. Donc il y a eu deux fois des bagarres comme ça. Et nous, on a repris en main en automne, en octobre. Et évidemment, après, la police, les médias, ils nous sont tombés dessus en mettant en avant les dérèglements qui se sont passés pendant que nous, on n'était pas là, quoi.
Ouais. Alors, comment était organisé justement le... Parce que c'était une grande bâtisse tout de même.
Oui, il y avait cinquantaine de pièces.
Voilà, cinquantaine de pièces. Y avait-il donc des logements, des lieux de communs, des lieux de concert, de culture, des lieux où on travaillait? Comment c'était organisé?
Alors, je pense que le lieu principal où tout le monde se retrouvait, c'était vraiment la cuisine populaire, quoi. Autrement, on n'avait pas de très grands locaux pour la musique, mais dans la belle saison, évidemment, on faisait beaucoup de choses à l'extérieur, quoi, y compris les repas, de la musique. Il y avait d'ailleurs un groupe de militants espagnols, quoi, anti-franquistes, qui faisaient des repas tous les dimanches, par exemple, quoi.
Génial.
Ouais. Ouais. Justement, oui, j'aurais posé une question à Ivar parce que j'ai vu quelques photos, mais du prieuré, des photos des années 50 ou des choses comme ça. Visiblement, il devait y avoir une cour à l'intérieur. C'était un peu comme un petit château.
Ouais.
Hein. donc, les concerts, il y avait des animations à l'intérieur. Parce que je n'ai pas du tout vu de photos de l'époque où c'était squatté.
Oui, alors il manque effectivement de photos. Je ne comprends pas très bien pourquoi à l'époque. Enfin, nous, c'est vrai qu'on était suroccupés par tout le travail qu'on menait. Donc, on n'avait même pas pensé à faire des photos. Et on pensait naïvement qu'on aurait prises. Et au final, je pense que j'ai seulement 4 ou 5 photos.
Ah, c'est dommage, mais parce que l'idée c'était qu'effectivement il y avait toutes ces moultes activités au sein du squat. Y avait-il également, est-ce que vous organisiez, était-ce un point de départ de manifestation? Tu parles justement, c'était une époque où Franco était encore vivant, hein, il est mort quoi, en 74, Franco.
Ouais.
Donc y avait-il encore des naissances de manifs qui commençaient après la vie?
Non, a priori. Pas à mon souvenir. Okay. Disons, c'était plutôt... parce que ce qu'il faut parler, c'est des suites du prieuré. Donc, on a réussi, on peut dire, à rebondir par le CRAC, qui est le Centre de Recherche et d'Action Communautaire, et le CAR, l'association CAR, dont j'ai les dépliants ici.
Oui, j'ai vu, parce qu'on les a contactés pour qu'ils viennent parler.
Donc là, ces deux associations se sont fondées en 1974. Et donc nous, on a repris la pratique de repas populaire, mais simplement une fois par semaine dans le cadre du bistre du CRAC. Et puis là, c'était le départ de manifestation, enfin on peut dire d'engagement par rapport à la lutte antinucléaire. Donc nous, on faisait les repas le vendredi soir. Donc ceux qui avaient des places dans les voitures et ceux qui en cherchaient, ben, ils venaient, ils prenaient le repas. Et ils arrivaient directement avec leur sac de couchage. Et après, vers 20 heures, ben, ils partaient soit à Kaiserhaus, qui était un squat vers anti-nucléaire vers Bâle, et ensuite vers Crémalville.
Oui, ouais, absolument. Les manifestations, ouais. Assez, d'ailleurs pour certaines assez agitées.
Oui,
contre Crémalville.
Bah, il y a eu la première grande manifestation en 1976. Et j'étais l'organisateur principal, parce qu'on organisait par tournus entre Lyon, Grenoble et Genève. Et puis c'était au crack qu'avait été décidée l'occupation de Crémalville.
Voilà. Alors ce qu'il y a d'intéressant à entendre là, c'est qu'effectivement il y a un héritage opérationnel du prioré.
Voilà.
C'est-à-dire que des choses qui en gestation étaient là, eh bien, elles ont maintenant une réalité opérationnelle, notamment via, comme tu le dis, le crack et le car. Et le car, ils sont.
Voilà, le car est toujours
moment,
là,
hein,
quoi.
Absolument.
Depuis plus de 40 ans.
Juste pour en revenir deux secondes à la situation de l'époque, quels étaient les relais médiatiques ? Est-ce que les médias étaient, comme maintenant, extrêmement contre, a priori, contre l'occupation et donc, voilà, orienter un peu l'information ? Ça, c'est le premier volet de la question. Et deuxième volet, la population locale, quel était son regard par rapport. Sont ressentis ouais. par rapport au squat.
Alors, au niveau des médias, il y avait un facho dans la Suisse du nom de Hurtubise, qui était évidemment très contre nous. Il rapportait tous les ragots qui pouvaient circuler contre le prieuré et tout. Par contre, la Tribune de Genève avait envoyé une journaliste très sympa, en tout cas, qui avait fait un reportage tout à fait correct.
Équilibré pour le moins.
Équilibré, oui.
Bon, c'est bien. Et la population locale, qu'en disait-elle ?
Alors, la population locale était, on peut dire, au départ, assez favorable, parce qu'il y avait l'association des habitants des Paquis. Et pour monter la cuisine populaire, on avait fait un appel dans le quartier pour des assiettes, pour des fours à bois, parce qu'on n'avait pas l'électricité, enfin juste limité à, je crois, aux deux WC. Et donc, on a hérité deux fourneaux à bois, des piles d'assiettes, etc.
Tout ça, c'était des dons.
Des dons du quartier, ouais, des casseroles, etc. Quoi.
Ben, c'est sympa quand même.
Ouais.
Et dis-moi, aviez-vous déjà la volonté, parce que c'est une époque où effectivement on parle de la guerre d'Espagne, j'imagine, mais également du Vietnam, de beaucoup de choses, on peut être internationaliste. Aviez-vous des relations avec des expériences similaires ici, ailleurs, ici et ailleurs, je veux dire en Suisse et ailleurs?
Alors, oui, il y a eu des Zurichois qui sont venus, qui étaient aussi dans le Globus, etc. Quoi. Donc, il y avait quelques échanges. Aussi avec Copenhague, là, le fameux
Christiania. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Ouais. Ah, vous étiez déjà en rapport avec Christiania.
On était en rapport, oui.
D'accord. Toi, Marie-Lou, quand tu observes les squats ici à Genève, est-ce que l'on distingue squat politique, squat artistique, squat d'habitation ? Parce que Paul, tout à l'heure, tu disais justement, tu parlais de squat artistique à un moment donné. Ouais. Est-ce que ça, c'est une distinction dont on peut dire qu'elle est clairement établie, ou alors les frontières sont floues ? C'est une colle. Si c'est une colle, tu me dis...
Réponse au normand. Je dirais qu'il y a un peu les deux. Puis ça dépend des époques. Parce que de ce que je peut identifier à partir du milieu des années 90, où effectivement là il y a eu une explosion des squats et qui, de ce que je retiens, récolte comme témoignage et de ce que je peux voir, visiblement l'État laissait proliférer les squats et au cadastre, même, on donnait des pistes à ceux qui, clairement, voulaient aller squatter. Donc, il y avait aussi, je pense, une volonté de dépolitiser, parce que ces gens-là, ils y allaient beaucoup plus dans le profit que dans la lutte. Et petit à petit, en fait, je pense que c'est un des gros trucs qui a fait... je pense que c'était clairement leur but. C'était qu'en fait, en dépolitisant, c'était devenu un espèce... Il y avait le rhino, mais c'était un espèce de pachyderme, cet énorme congrégation de squats genevois. Et voilà, il y a un moment où ça a fini par s'affaiblir.
Si je peux intervenir,
bien sûr.
Ce que je trouve très dommage, c'est que, donc, je disais, au début, il y avait une dizaine d'associations de quartiers et on demandait aux squatters de ces quartiers de s'investir dans les associations.
Ouais.
Et c'était le cas au tout début, mais ensuite, ils ont décroché et sont repliés sur eux-mêmes sans comprendre que, finalement, leur survie, c'était précisément la vivacité de ces mouvements de quartier. Et ces mouvements de quartier, par fatigue, pour différentes raisons, sont devenus beaucoup, beaucoup moins vivants. Et c'était une grande perte pour les squatters, parce qu'ils n'avaient plus vraiment un appui effectif de ces mouvements de quartier, voire de la fédération des associations de quartier, où il y a eu des graves tensions. Parce qu'il y a eu une très mauvaise réponse à une tentative de noyautage. Là, c'était de Front Rouge, hein, je crois qu'il s'appelait à l'époque. En fait, moi, j'ai répondu En relisant en fait les statuts de la Fédération des associations de quartier, et je m'étais rendu compte qu'il manquait un poste de secrétariat. Donc j'ai pris le poste de secrétariat pour mieux organiser les réunions précisément et faire en sorte par l'ordre du jour que les décisions soient prises à temps, c'est-à-dire avant 20 heures, pour permettre aux habitants, aux gens qui bossaient, de prendre les décisions. Alors que quand c'était un peu le cafouillis, ben, les décisions se prenaient un peu à la volée en fin de soirée. Ce fonctionnement, on peut dire, qui n'était plus correct, a découragé pas mal d'habitants, représentants de ces associations. Et les squatters ne s'étaient pas rendus compte à temps de ce problème. Et finalement, ensuite, la droite a profité de cette perte de rapport de force. Quoi.
Alors, ça, ce sont des sujets effectivement sur lesquels on reviendra, parce que ce sont des sujets fondamentaux, essentiels et extrêmement délicats. Pour aujourd'hui, on va doucement arriver au terme de cet entretien, parce que comme ça, nous pourrons également parler avec Paul qui est parmi nous. Pour en terminer, et puis Ivar, nous, on se retrouvera vite, puisque tu vas partir à cette marche, donc le 6 juillet, marche pour la paix à Srebrenica. Eh bien, tu serais cordialement invité, si tu le voulais, à revenir nous en faire un récit.
Oui, bien très volontiers. Je viendrai aussi avec... Les deux ou trois Genevois qui seront avec moi.
Bah ben, voilà, l'invitation est lancée en tout cas. Pour en terminer, j'aurais voulu vous demander votre point de vue depuis votre position sur justement le mouvement Prenons la Ville, qui en ce moment, eh bien, tout de même mobilise des gens avec effectivement cette question de la gentrification, de l'accès à la ville, de la démocratisation de l'accès à la ville. Et on voit que c'est un mouvement qui est quand même très jeune, hein. Je ne sais pas Paul ce que tu en dis, mais on voit des personnes qui ont 20 ans dans la rue, qui manifestent. Et il y a eu ces trois manifestations dans un temps d'un an et demi, qui ont chacune mobilisé plusieurs milliers de personnes. Alors j'aurais voulu savoir comment vous, Paul inclus, donc, quel est le regard que vous portez sur le mouvement Prenons la Ville actuellement? Pensez-vous qu'il est là pour un moment, qu'il s'enracine et que voilà, il y a quelque chose là-dedans qui se joue, qui est beau? Ou vous pensez que c'est quelque chose qui n'a pas de lendemain? Enfin, comment vous l'observez? Je ne sais pas qui veut commencer.
Moi, je veux Paul. Bien. C'est un mouvement jeune, hein, en effet, qui attire les jeunes, en effet, parce qu'il est question de leur logement, donc de leur avenir. Ils entrent dans la vie adulte avec une grosse crise du logement qui va les empêcher soit de quitter leurs parents, les squats n'existant plus. Même en colocation, les loyers sont tellement exorbitants que c'est quasiment impossible. Donc ils ont soit la chambre d'étudiants, soit rester chez papa-maman pendant des années. Le temps soit de trouver un travail qui ne soit pas un stage, là c'est un autre problème, qui va les faire rester encore plus longtemps chez papa-maman. Et donc ils se sentent directement concernés par ces problématiques logement. Et on a la chance au Paqui d'avoir encore accès à des loyers plus ou moins raisonnables suivant les rues, les cas. Et on voit naître dans le quartier des espèces de verrues spéculatives, donc des gros bâtiments pour millionnaires, qui sont des espèces de champignons ignobles plantés dans le quartier le plus populaire de la ville, enfin un des quartiers les plus populaires de la ville. Et puis les jeunes se disent, tout cet espace qui est gâché pour les millionnaires aurait pu faire des super logements à loyer abordable pour nous. Donc ils se sentent clairement concernés, c'est clairement leur avenir qui se joue, en plus de l'avenir du quartier lui-même. Et ça fait qu'ils sont extrêmement impliqués dans ces mouvements, et moi je pense que c'est parti pour durer.
Très bien, merci beaucoup de ton observation, de tes observations. Yvan.
Oui, alors moi, je pense que le nom n'est pas très bien choisi. Moi, j'aurais plutôt dit « Libérons la ville ». Ça aurait été peut-être plus porteur dans le sens de libérer justement de cette mainmise capitaliste, finalement.
Mais d'abord, on la prend et ensuite, on la libère.
C'est une question d'étape.
Ce titre a un nom historique puisque ça vient de Barcelone, de l'époque de... Comment ça s'appelait, là ?
La collectividad.
Stéphane Nessel.
Ah, le Indignez-vous ?
Oui, les Indignés. Sur sur le site Genève Calvingrad, où je mets aussi des vidéos, il y a un extrait de... Prenons la ville, okay. Barcelone.
D'accord, moi je ne savais pas. Yvan, tu voulais...
Oui, je dis, ce qu'il faudrait, ça serait de créer des points fixes, je ne sais pas, une fois par mois, par exemple, où tous les gens qui ont des problèmes de logement pourraient se retrouver en sachant que c'est à tel et tel lieu avec Libre Radio.
Une agora. Nous, on serait certainement présents, en tout cas, si on nous sollicite. Ouais,
parce que je pense qu'il y a un manque de visibilité de tout ce mouvement, on peut dire, en gestation. Et il ne suffit pas de faire de temps en temps des manifestations, c'est aussi de prendre des initiatives. Et puis je dirais aussi des associations comme le CAR Bleu, donc, qui est un peu une suite. Nous, on est de mi-juin à début septembre, juste à la sortie de Mont Blanc, donc depuis la gare.
Ils ont pris tellement blanc.
Donc tout le monde est invité à venir et puis à discuter donc, avec les réceptionnistes.
Très bien.
Et les membres de l'association.
Très bien. Avant que Marie-Lou nous conclue sur ce point-là, sur cette question-là, Yvan, j'ai omis cette question tout à l'heure. Les Paquis, à l'époque du Préoré, en 72, 73, 74, le quartier des Paquis, c'était déjà un quartier un petit peu comme maintenant, populaire, ouvrier, cosmopolite, ou était-il différent ?
Oui, en gros, c'était pareil avec le front du lac. Pour les riches et puis l'intérieur pour les populations plus pauvres. Il y a peut-être un peu plus de maghrébins qui ont des kiosques et tout, qu'à l'époque, il n'y en avait pas encore.
D'accord. Très peu. Je te pose cette question à toi parce que, Paul, tu pourras me répondre sur les Paquis, mais à partir de 78.
Exactement.
Et non pas à partir de 72.
Avant, je peux inventer.
Marie-Lou, et toi alors, qu'en penses-tu ? Quel est ton regard sur ce mouvement Prenons la vie ?
Alors, je pense effectivement que ça va durer. Il faut voir aussi comment les gens peuvent s'organiser. Mais Yvan m'a fait penser au fait qu'au début de la période où je squattais, c'était une période où effectivement il y a eu, avant que les lieux aillent se faire occuper, des périodes où on campait, où
la
on bivouaquait,
plaine de plein palais,
soit la plaine de plein palais, qui a quand même, il y a eu des tentatives quand même à un moment où le mouvement des squats a essayé de redémarrer dans les années 2010, mais ça a pas pris à ce moment-là. Je pense que effectivement il y a des forces plus vives aujourd'hui et il y avait ces points où quelques personnes montraient qu'ils étaient dans la difficulté et d'autres, du coup, venaient aussi rajouter... dans les années 2010, je crois qu'il y a eu ces espèces de cahiers de doléances. Peut-être que c'était encore trop proche des squats et... Il y avait eu tellement de... Les gens avaient pris tellement de baffes que peut-être ce n'était pas encore le bon moment. Peut-être que maintenant...
Le temps est arrivé.
Ouais. Okay. les gens voient bien qu'il faut, il faut se prendre en main.
Voilà, exactement. Ok, on s'arrête là pour aujourd'hui concernant ce sujet-là, mais bien entendu que ça n'est que pour aujourd'hui. On a encore tellement de choses à dire. En tout cas, Marie-Lou, peut-être voudrais-tu dire encore justement l'adresse de ton site internet pour que les personnes puissent te demander et s'inscrire à ces balades.
Ouais. Alors, c'est donc www.genève-calvingrad avec un K, bien sûr, .ch, tout en minuscules. Et puis là, j'ai des visites encore au mois de juillet, le 8 et le 15. Le 8 et le 15, c'est aux Eaux Vives. Et le 8 et le 22, pardon, aux Eaux Vives, et le 15 à Plein Palais, donc le dimanche après-midi à 14h.
Très bien, merci beaucoup. Et puis Ivar, ton actualité, toi, c'est la marche le 6 juillet, tu pars pour Srebrenica. Vous êtes combien à partir de Genève?
Alors nous sommes 3 de Genève en tout, donc nous sommes 33.
Très bien.
Principalement de France, et nous avons donc une association qui a son siège à la Maison des associations. Donc Solidarité Bosnie, quoi. Donc vous pouvez trouver www.solidaritebosnie-ch.
D'accord. Je vous remercie beaucoup tous les deux et on va se laisser là pour aujourd'hui et nous allons continuer. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est parce qu'il va peut-être pleuvoir, donc on va bouger un petit peu. Donc nous allons continuer en compagnie de Paul Mangat, auteur, et nous allons parler des paquis, de l'écriture, de toutes ces petites choses-là, si ça te va comme ça.
Avec grand plaisir.
Allez, on fait une petite pause musicale et on continue juste derrière.